France Musique.
Bruit d'accordéon, le podcast France Musique.
Alors, vous, Gus-Guzer, vous êtes champion cycliste, je crois.
Peut-être.
Louis Dodrich, vous.
L'athlétisme du judo.
L'athlétisme du judo. Bon. André Verschuren.
Ah, moi, c'est le football, voilà.
Ah, le football, oui.
Gardien de vue.
Oui. Louis Ferrari.
Oh, moi, c'est moins fatigant, c'est les boules.
Les boules, oui. Bon, d'accord.
Deuxième série, l'accordéon, dieu du stade. Chapitre 4, des coachs légendaires. Le football a pu compter sur Didier Deschamps, Aimé Jacquet ou Giroud, mais l'accordéon a lui aussi ses entraîneurs de premier plan. Vous l'aurez peut-être deviné, nous voilà plongés dans les 70s. Nous écoutons un enregistrement de 1976 réunissant deux légendes de l'accordéon, Richard Galliano et son aîné Jos Baseli. Ils ont composé ensemble ce titre, Électro-ballade, qui résonne aujourd'hui comme le touchant témoignage d'une merveilleuse relation entre deux musiciens, certes de générations différentes, mais partageant le même talent, la même passion. Dans notre épisode précédent, nous avons déjà évoqué l'irremplaçable Jos Baseli. Au moment d'ouvrir ce numéro consacré au coach légendaire de l'accordéon, il était impensable de ne pas commencer par lui, lui qui aura découvert tant de talents. Parmi eux, Richard Galliano occupe une place à part. Jos le prend sous son aile. C'est lui qui le convainc de venir tenter sa chance à Paris et mieux que ça, il l'accueille chez lui dans son appartement parisien pendant de longues semaines. Il va lui faire faire ses premiers cachets d'accompagnateur chez Reggiani puis Greco. Il va le conseiller, le guider, l'aider. Aujourd'hui, lorsque Richard Galliano parle de Jos Baseli, c'est toujours avec une émotion et une tendresse particulière. Jos était un peu son deuxième père, une figure qui a marqué sa vie et sa carrière. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de discuter un long moment avec celui qui a ouvert la classe d'accordéon au CNSM de Paris en 2002 et qui enseignera dans cette maison jusqu'à son départ en retraite il y a quelques mois, Max Bonnet. Il m'a confié une anecdote ô combien touchante. En 1979, Max remporte la Coupe du monde d'accordéon qui a lieu en France, à Cannes. À l'époque, il est tout jeune. Il n'a que peu de moyens, mais il va recevoir une aide décisive de Jos Baseli et André Astier. Les deux amis veulent absolument qu'il enregistre un album avec son programme de concours. Ils vont financer, sur leur denier personnel, un magnifique enregistrement qui aura lieu en juillet 1980 dans l'église d'un petit village des Alpes-Maritimes, Gourdon. C'est donc à Baseli et à Astier que l'on doit ce disque comprenant entre autres le monastère de Fierapontes, composition de Vladislav Zolotarev que nous écoutons sous les doigts de Max Bonnet.
Thank you.
Jos Baselli, c'était donc une immense générosité, une envie irrépressible de faire avancer l'accordéon et d'aider les nouvelles générations. Mais Baselli, c'était aussi un bourreau de travail et un défenseur de toutes les esthétiques. Programmateur de l'émission télévisée Le Monde de l'accordéon diffusée sur TF1 durant plus de 10 ans, il n'aura de cesse de défendre l'accordéon dans tous les répertoires. Du musette au jazz, en passant par la chanson ou la musique classique, pour Jos, la musique n'était qu'une. Il suffit de l'entendre revisiter Mozart avec son mythique quartet pour en prendre toute la mesure. Vous avez sans doute reconnu le premier mouvement de la sonate numéro 16 pour piano de Mozart, revisité en 1967 par Pierre Culaz à la guitare, Michel Gaudry à la contrebasse, Armand Cavallaro à la batterie et le légendaire Jos Baselli à l'accordéon. Baselli aura donc été un de ces coachs de légende de l'accordéon, un pygmalion, un catalyseur de talent. Richard Galliano, Roland Romanelli ou Max Bonnet en sont autant de témoins aujourd'hui. Voici à présent dans un tout autre registre avec un autre entraîneur d'équipe d'accordéonistes, le grand Maurice Larchange. Nous l'entendons dans une valse de sa composition, 1-2-3, enregistrée en 1983. C'est à cette période, au milieu des années 80, que Maurice va lancer une aventure singulière, une sorte d'ancêtre de la Star Academy, version piano à bretelles, les petits prodiges de l'accordéon.
Ce que je reprochais dans l'accordéon, c'était que il n'y avait pas de nouvelle génération qui arrivait. Par exemple, moi, à 29 ans, nous étions trois. Il y avait à l'époque Maurice Vitney et Armand Lassen, qui étaient des grands accordéonistes. Et nous étions tous les trois à 28, 29 ans. Et on nous appelait à 29 ans les cadets de l'accordéon. C'est un peu honteux. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber dans un trophée d'accordéon. Et j'ai vu Dominique et Maureen jouer de l'accordéon. Elle avait 9 ans et demi. et je suis tombé sur le dos et j'ai dit mais c'est pas possible que des jeunes jouent aussi bien que cela. Et six mois après, c'était en 86, six mois après sortait le premier disque avec des enfants de 10 à 14 ans. C'est formidable, ils sont enthousiastes, ils ont une lumière dans les yeux, ils comprennent tout, ils sont ouverts, ils rigolent, ils sont sérieux, ils sont prêts à travailler et au studio ils se sentent des anges. Alors bravo la jeunesse, parce qu'on parle toujours, quand on ouvre sa télé, c'est toujours pour entendre des jeunes qui brûlent des voitures ou des choses comme ça, mais des jeunes comme ça, on n'en parle pas.
Des jeunes qui brûlent des voitures, des propos qui n'ont pas pris une ride, et pourtant c'est une interview de 1997 dans laquelle nous entendions tout l'amour de Maurice l'Archange pour l'accordéon et pour la jeunesse. Avec les petits prodiges, Maurice va lancer tout un tas de carrières. Éric Bouvel, Sébastien Farge, Sandra J ou Aurélien Noël sont autant de jeunes accordéonistes à avoir parcouru la France, de spectacle en gala, de studio en salle de répétition, aux côtés de Maurice et son équipe. Mais au milieu de toute cette jeune génération, une instrumentiste à part émerge. Maurice l'Archange le confie lui-même, c'est elle qui lui a donné cette idée, elle qui l'a ébloui de talent alors qu'elle n'avait pas 10 ans. Elle s'appelle Domier Morine. Nous écoutons Domier Morine dans Géraldine, une valse composée par Jos Baselli et Jackie Malheureux, qu'elle revisitait pour notre plus grand plaisir durant le confinement. Maurice l'Archange, comme Jos Baselli, vont être des coachs, de véritables coachs pour plusieurs générations d'accordéonistes. Mais le coaching, l'entraînement, c'est aussi l'enseignement, la pédagogie. Peut-être vous souvenez-vous que dans le deuxième épisode de notre série, nous écoutions une composition de Médard Ferrero. Accordéoniste virtuose, compositeur prolifique, Ferrero est aussi le premier grand professeur d'accordéon français. Dès les années 30, il met sur pied une pédagogie qui, aujourd'hui encore, fait date. Il sera l'auteur de nombreuses méthodes et compte parmi ses élèves quelques très grands noms, comme un certain Marcel Azola. Thank you. Marcel Azola dans ce prélude en do dièse majeur de Jean-Sébastien Bach qu'il enregistrait en 1965. Élève du grand Médard Ferrero, Azola va naturellement lui aussi beaucoup œuvrer pour les générations futures. Avec ses amis Jos Baselli, André Astier et Joé Rossi, il fonde l'Académie de l'accordéon. À Paris, au cœur du Faubourg Saint-Martin, ceux qu'on surnomme les quatre mousquetaires de l'accordéon vont former, encourager et guider de nombreux jeunes musiciens. André Astier compose du répertoire nouveau. Jos Baselli invite ses jeunes dans son émission télévisée. Marcel Azola assure les jurys de concours et guide chacun dans ses choix de carrière. Mais celui qui enseigne le plus, celui qui est le plus pédagogue d'entre tous, c'est le regretté Joé Rossi. Nous l'entendons ici dans une reprise de Reine de Musette, ce standard des bals populaires signé Jean Perronin. Nous sommes en 1980, en direct sur un plateau de télévision, et Rossi livre humblement, avec l'élégance des très grands, une véritable leçon de musique et d'accordéon. En écoutant Joé Rossi, je veux évoquer avec vous quelques-uns de ses collègues professeurs, ceux-là même qui ont marqué l'histoire de notre instrument dans l'Hexagone. Je peux citer Tony Fallon, qui est officier du côté de Dijon, Dino Necro à Digne-les-Bains, messieurs Albénac, père et fils à Saint-Étienne, ou encore Lucien Galliano, le papa de Richard Galliano, qui lui était installé dans l'arrière-pays niçois. Ils ont tous contribué à former les générations d'instrumentistes qui leur ont succédé, souvent avec discrétion et humilité, mais avec tout autant d'exigence et de dévouement. Parmi les grands noms de l'enseignement de l'accordéon en France, il nous faut aussi évoquer celui d'André Tepaz, fondateur d'une puissante école d'accordéon à Chambéry. Il a formé de très nombreux accordéonistes, dont certains que nous évoquons souvent à ce micro. C'est le cas de Max Bonnet, dont nous parlions en début d'épisode, mais aussi du génial Lionel Suarez. Thank you. nous écoutons Cambiada, une composition de Gerardo Di Giusto, enregistrée en 2017 par R.L. Besson à la trompette, Vincent Segal au violoncelle, Minino Garay aux percussions et l'incroyable Lionel Suarez à l'accordéon. Nous nous approchons de la fin de cet épisode et de notre série, mais avant de clore l'aventure de notre dieu du stade et ce chapitre sur ses coachs de légende, il est temps d'évoquer celui qui m'a inspiré cet épisode. Tout commence dans un petit village du Vaucluse, situé entre Avignon et Cavaillon, le Thor. L'instituteur du village est aussi musicien, il joue de l'accordéon et anime d'ailleurs des bals populaires avec son orchestre dans la région. Totalement passionné par cet instrument, ce jeune instit décide de donner des cours d'accordéon dans son école après la classe. Les années passent, le nombre d'élèves accordéonistes augmente jusqu'au jour où un jeune garçon se présente. Il joue quelques notes et le professeur reconnaît immédiatement en lui un talent incroyable. Ce jeune garçon se prénomme Alain Musichini et celui qui va devenir son enseignant s'appelle Jacques Mornay. Écoutons le phénomène Alain Musichini dans cette archive télévisée de 1979. Il est l'invité de l'émission Le Monde de l'accordéon de Jos Baselli et interprète avec brio le quatrième mouvement de la suite numéro 1 d'Alexander Cholminov. En prenant Alain Musichini sous son aile, Jacques Mornay va bouleverser sa vie et devenir un des professeurs d'accordéon les plus connus et respectés à travers le monde. En 1981, Musichini remporte la Coupe du Monde d'accordéon. Cela crée l'événement et quelques mois plus tard, le département du Vaucluse décide de créer l'École départementale de musique du Thor. Un bâtiment flambant neuf voit le jour en 1984 et la direction de l'établissement est confiée à Jacques Mornay. C'est là, durant plus de 10 ans, qu'il va commencer à former une multitude d'accordéonistes qui aujourd'hui sont aux avant-postes, portant notre instrument sur de nombreuses scènes, enseignant dans de très nombreux conservatoires. Parmi eux, je peux citer Christine Rossi, Frédéric Deschamps, Myriam Lafargue, Philippe Bourlois et tant d'autres. En 1995, l'heure de la retraite sonne pour Jacques Mornay. Mais comment imaginer cet homme truculent, ce personnage empli de passion et d'énergie, raccrocher les gants, accepter d'être mis au repos forcé? Il décide de partir s'installer en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où il fonde le CNIMA, Centre National et International de Musique et Accordéon. Il ne se lance pas seul dans cette aventure, mais aux côtés d'une de ses anciennes élèves, Nathalie Bouchex, que nous entendons dans La Valse du Clown, une pièce de Franck Angélis dédiée à Jacques Mornay et enregistrée en 1999. Le CNIMA est un peu à l'accordéon ce que Clairefontaine est au football. Une école qui comprend un internat et qui reçoit des élèves en résidence sur place toute l'année. Ils viennent des quatre coins du monde et se retrouvent à Saint-Sauve d'Auvergne, un village de 1000 habitants, pour travailler leur instrument une dizaine d'heures chaque jour. En plus de ses étudiants à l'année, de nombreux stagiaires se pressent dans cette école tout au long des vacances scolaires. Il faut imaginer l'effervescence des lieux, de l'accordéon partout, à tous les étages, derrière chaque porte, dans chaque recoin. Mais aussi de l'accordéon dans tous les styles, tous les répertoires. Jacques Mornay et Nathalie Bouchex vont s'entourer d'une équipe de professeurs, eux-mêmes formés à l'origine par M. Mornay, et inviter des intervenants extérieurs de manière plus ponctuelle sur des périodes plus courtes, qu'ils soient professeurs à l'étranger ou de grands solistes de l'instrument.
Si tu n'aimes pas la vie et les gens, okay, si tu es solitaire, si tu es renfermé sur toi-même, si tu n'oses pas te libérer vis-à-vis des gens, ça sera dur pour toi. Il faut vraiment que tu aimes transmettre un peu de l'amour, et il faut que tu aimes les gens, quoi. Mmh. Et c'est pas tout le monde qui a cette qualité, ils ont d'autres qualités, quoi. Mais ça, c'est la condition première.
Aimer la vie et aimer les gens. Jacques Mornay répondait à une interview il y a quelques mois, et peut-être aurez-vous saisi une partie du personnage en l'écoutant. Car s'il est un professeur, il est indéniablement beaucoup plus qu'un prof. Lui-même passionné de sport et lecteur assidu du quotidien L'Équipe, Jacques Mornay a toujours comparé son travail à celui d'un coach sportif. J'ai eu la chance de naître à quelques kilomètres du SNIMA. C'est donc l'école où j'ai grandi, c'est l'école qui m'a en partie fabriqué. J'en garde des souvenirs nombreux et forts, j'en garde des amitiés aussi, essentielles, vitales même. J'en garde enfin la conviction que l'enseignement, c'est un métier superbe, exigeant mais passionnant, un métier dur mais qui a la puissance de changer le cours d'une vie. Alors merci du fond du cœur à tous ceux qui l'exercent, en musique ou ailleurs. C'est au son de l'alto de Karine Letiec et de l'accordéon de la merveilleuse Aude Juliano, qui a elle aussi passé une partie de ses jeunes années en Auvergne, que nous allons devoir conclure notre numéro consacré au coach légendaire de cette discipline quasi olympique qu'est l'accordéon. Cet épisode a été concocté avec le concours de Patrick Lérissé à la réalisation, Guillaume Ledu et Méloé Chalouni à la technique, Marie-Christine Ferdinand, notre attachée de production. Cette deuxième série de podcasts Brut d'accordéon est à présent terminée et j'espère que vous êtes persuadés, tout comme moi, que l'accordéon est un véritable dieu du stade. À très vite pour de nouvelles histoires au son de l'accordéon.
À réécouter sur francemusique.fr.